Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en compagnie de Lucas pour un nouvel épisode de Politiquement Vôtre, l'émission politique de Mon Paris FM, imaginée par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Houdiné. Dans ce programme, des jeunes, politisés ou non, rencontrent des personnalités politiques pour aborder des sujets qui les concernent afin de mieux comprendre en quoi la politique impacte directement leur vie quotidienne. Aujourd'hui, nous accueillons le député de la 3e circonscription du Val-de-Marne, Louis Boyard. Comment ça va, Louis ?
Eh ben, ça va très bien, je suis très heureux d'être ici, c'est un magnifique centre social.
Et on est super heureux de t'accueillir aussi. Léo ? On a Léo avec nous, qui est un jeune qui est stagiaire, qui a 15 ans.
Exactement.
Et qui est là pour deux semaines et qui fait de la musique, c'est ça ?
Si ouais, je comprends bien. C'est ça. Je suis venu ici pour me renseigner au niveau tout ce qui est ingé son, tout et tout, le mixage.
Très bien.
Donc pour l'instant, ça se passe super bien.
Ok, et tu es en stage avec notre super homme de la technique, Jason, qui te montre toutes les ficelles, c'est ça ? Très bien, très bien. Du coup, on va commencer.
Allez.
Louis, je vais commencer par te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Et après, avec Léo, on va te poser quelques questions.
Bien sûr.
Alors Louis Boyard, ton parcours, celui d'un jeune homme devenu député à même pas 22 ans, ainsi que tes différents engagements pour l'école, la précarité des jeunes ou la cause palestinienne, donne un indice important de ta personnalité. Tu portes la lutte cheville au corps. Dès tes années lycée, tu fréquentes l'Union Nationale Lycéenne, un syndicat dont tu es devenu le président. Surtout, tu participes activement au blocage de ton établissement, le lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, qui est infesté d'amiante. Une lutte victorieuse, puisque le bâtiment pollué a été détruit et remplacé par un édifice flambant neuf qui accueille à nouveau des élèves depuis la rentrée 2023. Cette période formatrice de ton engagement politique t'a permis de mener d'autres batailles, dont certaines sont encore d'actualité, comme la mobilisation contre la plateforme Parcoursup. Une fois ton bac en poche, tu entames des études de droit à l'université Panthéon-Assas et deviens le porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Alors que tu étais jusqu'alors connu comme le petit blond qui bloque les lycées de Villeneuve, tu deviens une personnalité médiatique en intervenant sur l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, puis sur TPMP, alors émission phare de la chaîne défunte, mais jamais regrettée, C8. Une expérience contrastée qui t'a permis de diffuser des idées à une échelle nationale, mais qui t'a aussi laissé une sale réputation, celle du député dealer de drogue, phase reprise en cœur par la droite pour te discréditer. À chaque occasion, nous y reviendrons. Quelques mois plus tard, à l'occasion des élections législatives de 2022, tu remportes la 3e circonscription du Val-de-Marne et deviens par la même occasion l'un des plus jeunes députés qu'ait connu la 5e République. Réélu député après la dissolution de l'Assemblée en 2022, tu as tenté de prendre la mairie de Villeneuve-Saint-Georges pour en faire la plus grande ville aux mains des Insoumis, un échec puisque c'est la droite qui a remporté le scrutin, marqué par de fortes divisions à gauche. Depuis, tu es revenu à ce que tu fais de mieux, la lutte, comme celle pour réformer les rythmes scolaires. Louis Boyard, plusieurs questions à te poser pour commencer. Ça vient d'où cet engagement, cet attachement à la lutte ? Est-ce que ça a été transmis par tes parents ? Est-ce qu'il y a des événements précis qui t'ont touché, qui t'ont donné le goût ? D'où ça vient, si jeune, d'avoir la lutte comme ça, cheville au corps ?
En fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi la lutte, c'est plutôt la lutte qui est entrée dans ma vie malgré moi. On était dans un lycée qui était l'un des pires lycées du Val-de-Marne. On est en dessous d'un aéroport construit sur une ancienne sablière en zone inondable. Donc quand il y a des inondations, il y a des trous dans la cour. Les faux plafonds nous tombaient dessus. On en avait certains d'entre nous qui avaient des problèmes de peau parce qu'on était à côté d'une décharge, d'une zone Seveso. En fait, on avait tous les problèmes, aussi manque de moyens et compagnie. Et il y a un moment, alors qu'on nous disait qu'il n'y avait pas d'amiante, il y a de l'amiante qui tombe dans une salle de classe. Et donc, je me retrouve avec mes potes, comme on peut se retrouver tous les soirs pour passer la soirée. Et on discute, et il y a cette phrase qui sort qui est le « on ne se fait pas respecter ». Et ce « on ne se fait pas respecter » nous a fait nous dire « bon, bah, il est temps de se faire respecter ». Et donc, on a fait des pétitions, on a fait des manifestations, on a fait des interpellations, ça ne changeait rien. Et donc, on a bloqué le lycée avec une banderole avec marqué « professeurs, rejoignez-nous ». Les profs nous ont rejoints, les parents nous ont rejoints. Et on est rentré dans 3-4 mois de lutte victorieuse, du coup, parce qu'on a réussi à obtenir la reconstruction du collège et du lycée. Et puis après, ensuite, le syndicat que j'avais rejoint pour mener cette lutte, il y a une des personnes de syndicat avec qui on avait eu une discussion. Il m'a dit « écoute, là, il y a la réforme Parcoursup qui arrive ». Au vu du lycée d'où tu viens, tu es de ceux qui vont y gagner ou de ceux qui vont y perdre ? J'étais de ceux qui allaient y perdre. Et Évidemment. Il m'a dit, bah écoute, fais-toi respecter. Et donc j'ai été dans les manifestations contre Parcoursup, et là-bas j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des militantes féministes qui m'ont expliqué ce qu'était le patriarcat. J'ai rencontré des militantes et des militants écolos qui m'ont expliqué ce qu'était le dérèglement climatique. Des militants antiracistes, des militants des quartiers populaires. Et tout ça, ça a forgé une conscience politique qui fait que Pour moi, on ne mène pas seulement des luttes pour soi ou pour défendre ses intérêts, on porte des luttes pour défendre un projet de société. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire de ce projet de société le sens de ma vie. Et donc, je m'arrêterai jamais de lutter.
Très bien. Léo, tu avais une première question pour lui? Je te laisse la poser.
Oui. Alors, on a vu un peu avant que tu as été syndicaliste quand tu étais lycéen. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter, qu'est-ce que tu as pu découvrir et qu'est-ce que t'en retiens.
Bah, j'y ai découvert deux choses. Déjà, premièrement, la nécessité de faire ensemble. En fait, c'est pas vrai dire qu'on gagne des luttes tout seul. On a toujours besoin d'une équipe, d'un groupe et de s'organiser. Et donc, s'organiser, ça nécessite toute une série de process, de modes de fonctionnement. Donc, ça m'a appris à organiser des luttes. Mais surtout, ce que ça m'a appris, c'est la légitimité. Parce que quand on a 17 ans et qu'on se bat pour la reconstruction d'un lycée et qu'il y a la région, la mairie, le département, personne, le gouvernement, personne qui veut aider, quand on mène ce combat-là, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans la pièce et qu'on est jeune, on nous dit « Tu sais pas de quoi tu parles. Non, mais tu en fais trop. Mais t'as rien à faire ici. De toute façon, tu veux juste manquer les cours. » Et en fait, on fait tout pour que tu te sentes pas légitime. Sauf que je savais qu'on avait raison. C'était nous qui étions du bon côté de l'histoire. Et donc, je me suis dit « Ne cherche pas à obtenir ta légitimité auprès de tes adversaires. Cherche à obtenir ta légitimité auprès de toi-même et auprès des gens pour qui tu te bats. » Et cette légitimité-là, elle était acquise. Et donc, du coup, j'ai appris que quand on est jeune, on sera toujours rabaissé, on sera toujours délégitimé, on nous dira toujours, tu comprendras quand tu seras plus grand ou tu sais pas de quoi tu parles. À partir du moment où la jeune génération, elle est capable de passer ce mur, alors rien ne peut l'arrêter. Parce que surtout quand on est jeune, en fait, on a vécu des choses que personne d'autre est capable de comprendre. On est une génération qui a grandi avec un smartphone dans les mains. On est une génération ultra connectée. On est une génération qui vit avec le dérèglement climatique. On est une génération qui voit un génocide sous ses yeux, là, maintenant, au moment où on parle, à Gaza. Et cette génération-là, elle vit des choses que personne d'autre ne vit. Et donc, on a une légitimité à exprimer cette parole-là. Donc, être syndicaliste lycéen, ça m'a appris à organiser des groupes pour mener des combats. Et ça m'a appris que ce groupe, il est toujours légitime à partir du moment où il est certain des causes pour lesquelles il se bat.
Ok.
Très bien. C'était très clair, non?
Ouais.
Là, ça te va, hein?
Et moi, je voulais te poser une question. En fait, tu es rentré du coup en politique très jeune. T'as pas pu terminer tes études, t'as jamais vraiment occupé de vrai emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois pour plus tard? Parce que là, déjà, j'allais te dire, tu portes une voix jeune, ce qui est très très rare dans ces sphères-là. Mais est-ce que tu estimes pas qu'il faudrait un jour revenir à la vie civile, entre guillemets, occuper un emploi, etc.
Moi, je ne vise pas à faire une carrière politique. Moi, mon objectif, c'est de faire la révolution citoyenne. Et on pourra revenir un petit peu sur ce que c'est que la révolution citoyenne. Mais on est dans un moment de l'histoire de France où les institutions sont complètement bloquées, où il y a une vraie gauche de rupture qui porte le drapeau, qui est en tête. Et donc, du coup, dans ce moment de l'histoire, j'ai envie de me battre pour ça. Après, j'ai envie de faire beaucoup d'autres choses. Je suis un passionné d'Internet et des médias. Je suis un passionné de jeux vidéo.
De
J'adore
jeux
ça.
vidéo, on en
Si
a
j'ai
parlé
moins le temps
avant
d'y
l'émission.
jouer, enfin, j'adore la solidarité. J'aimerais monter des associations. Donc, je ne pense pas que je vais faire député toute ma vie.
D'accord. Est-ce que tu avais une... Léo, je crois que tu avais une autre question sur son rôle de député, justement.
Là, j'en ai une juste là. Ce serait pour savoir, tu dis que tu ne vas pas rester député. Tu penses t'orienter dans autre chose? Est-ce que tu as déjà des idées, des choses?
Moi, ce que je voulais faire à l'époque, je voulais être avocat
Ok.
pénaliste, et c'est pour ça que j'avais commencé des études de droit. Il faudra peut-être que je m'y remette, mais après, j'ai des lubies du moment, quoi. Ma lubie du moment, en ce moment, c'est j'aimerais beaucoup faire une association d'aide aux devoirs. Voilà. Et donc, ça fait des mois et des mois que
T'es au
j'ai.
bon endroit là, parce qu'on a beaucoup d'associations d'aide aux devoirs qui
Ouais.
viennent dans ce genre de structure, là à Montparnasse FM, enfin dans la structure du centre Houdinet, pour accompagner les jeunes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et moi-même, j'ai fait l'aide aux devoirs pendant
Et
2 ans, donc
c'est
très jeune.
super important d'avoir des gens qui sont volontaires pour faire l'aide aux devoirs, parce que c'est de là que commence l'une des principales inégalités scolaires. Mais les structures, on demande énormément aux structures sociales et on ne leur donne pas les moyens de faire tout ce qu'on leur demande. Et par exemple, bah, les structures et les associations aimeraient faire le plus d'aide aux devoirs possible. Malheureusement, elles n'en ont pas les moyens humains, financiers, logistiques. Et donc, du coup, on a besoin que tout le monde mette un peu la main à la pâte dans tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime. En fait, j'ai déjà fait ça. Du coup, c'était un de mes jobs quand j'étais étudiant. Du coup, j'ai fait de l'aide aux devoirs. Après, je les faisais dans des lycées de riches, donc ça m'a pas plu. Mais enfin, le collège lycée de riches, ça m'a pas plu. Moi, j'aimerais le faire chez moi, quoi, en bas de chez moi. Donc voilà, peut-être que c'est ça que je ferai. Et puis peut-être que je ferai totalement autre chose. On verra. C'est l'avenir qui dira.
Mais ton programme de révolution citoyenne, ça va un peu avec ça, puisque ça me fait penser à un autre programme révolutionnaire qui est celui du Black Panther Party, et qui faisait du coup l'aide aux devoirs, aussi les petits déjeuners pour les jeunes, etc. C'est une des premières choses par lesquelles ils ont commencé pour aider leur communauté et ensuite faire la révolution. Donc c'est exactement le même chemin.
En fait, c'est super important comme méthode parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, la politique, je veux pas m'y engager, et particulièrement quand ils sont jeunes. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet, le pourquoi est-ce que les jeunes y votent pas. Alors, tout le monde dit parce que les jeunes s'en foutent, parce qu'ils ne comprennent rien, c'est pas vrai du tout. Toi, par exemple, tu as Instagram, tu as TikTok, tu as ces réseaux sociaux-là. Du coup, sur Instagram et sur TikTok, tu dois voir passer les stories de Hugo Décrypte, par exemple.
Oui,
Tu
oui.
vois passer des stories, tu vois passer
Bah,
des
y
choses.
compris toi aussi.
Voilà, le contenu que je peux faire. Et donc, du coup, regarde, à 15 ans, tu vois l'actualité autour de toi.
Bah,
Et
on peut
donc.
voir plusieurs choses comme ça. Par exemple, j'ai des amis, on commence déjà. C'est un peu l'âge où on commence à s'y mettre. Puis, vu que maintenant, bah, avec ce qui se passe, bah, ça a toujours été un peu comme ça, mais avec les choses qui se passent aujourd'hui, tout et tout, bah, on nous avance de plus en plus et on essaye de s'y intéresser. Donc, il y en a qui sont à fond pour des parties, il y en a d'autres qui s'intéressent un peu moins, qui découvrent. Donc, ça découvre un peu plus. Mais oui, on commence à s'intéresser de
Et
plus en
ça,
plus.
pour le coup, c'est un fait qui est unique. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que la jeunesse a jamais été aussi informée? Parce qu'elle n'a jamais été aussi connectée. Mais il y a des jeunes, malgré le fait qu'ils entendent tout le temps ce qui se passe autour d'eux, ils ont un avis sur le partage des richesses, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le dérèglement climatique, le racisme, mais pourtant, ils ne passent pas la barrière du vote. Et en grande partie, s'ils ne passent pas la barrière du vote, c'est pas qu'ils connaissent rien à la politique, ils sont informés et ils ont un avis dessus. C'est qu'ils connaissent rien aux institutions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'irais voter pour les législatives? Les législatives, c'est quoi? C'est les députés, mais attends, un député, ça sert à quoi? Ça vote quoi? Hein, mais président de la République, attends, il fait quoi le président? La région, mais c'est quoi la différence entre région, département? Et en fait, c'est pas que les jeunes ne sont pas connectés à la politique, ils sont ultra connectés à la politique. C'est qu'ils ne sont pas connectés aux institutions. Et les institutions ne font rien pour intéresser les jeunes. Et donc, et c'est ça que j'essaye de faire. Moi, mes adversaires, ils m'appellent le député TikTok. Ça me fait plaisir comme tout. Parce que moi, ce que je veux, c'est connecter l'institution dont je fais partie, l'Assemblée nationale, à la jeune génération. Et donc je reprends les codes de la jeune génération, qui sont aussi mes codes parce que j'ai grandi dedans et parce que je suis toujours dedans, et je fais de la politique à travers ça. Et selon moi, c'est comme ça qu'on va amener une jeune génération vers le vote.
Mais en fait, on voit déjà que même, effectivement, je suis d'accord avec toi, le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne votent pas, mais qui sont quand même intéressés par la politique. On voit, toi, tu parlais de ton lycée, on voit beaucoup de jeunes dans les manifestations pro-palestiniennes. On voit qu'en fait, il y a des sujets qui concernent les jeunes, qui les intéressent. Et toi, c'est quoi ton discours pour leur faire comprendre justement que, bah, en fait, il y a besoin que ces jeunes s'intéressent à la politique pour bah, faire avancer, entre guillemets, les causes qu'ils portent?
Ouais, la première chose que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est parce qu'ils disent de toute façon ça sert à rien, j'ai envie de vous dire, moi je suis dégoûté comme vous, je suis dégoûté par ces gens, je suis dégoûté par ces gens qui piquent du fric, par ces gens qui respectent pas la volonté du peuple, qui connaissent rien à la réalité du monde, je suis dégoûté par ces gens. Mais si jamais il reste que, si jamais les dégoûtés quittent la politique, alors il restera que les dégoûtants. Et en fait, ne pas voter, ne pas participer à ça, c'est juste leur donner les pleins pouvoirs contre vous. Et c'est juste, c'est juste, c'est un contre son camp en fait que de pas voter. Alors que si jamais vous allez voter pour une formation politique qui prétend, enfin qui vous ressemble, qui défend ce que vous défendez, et moi je suis à la France insoumise, je crois que la France insoumise défend la parole de la majorité du peuple français. À partir du moment où vous donnez de la force à une formation politique, alors là vous faites pas un contre son camp et vous pouvez contribuer à tous les dégager. Donc moi le message que je leur dis c'est premièrement je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je m'engage. Et si jamais les dégoûtés ne votent plus, alors il reste que les dégoûtants. Donc vote.
En parlant des dégoûtants, on va parler un peu de ton parcours médiatique. J'ai parlé un peu aussi du scandale qui te colle un peu à la peau avec cette étiquette du député dealer de drogue. Il y a quand même des. Toi, du coup, tu n'as pas été condamné. Il y a quand même beaucoup de personnalités politiques qui ont été condamnées. Je pense même à Dati, là, qui est poursuivi pour une gigantesque affaire de corruption. Toi, comment est-ce que tu le vis d'être dans ce milieu-là?
Moi, dans le milieu politique. Moi, honnêtement, la vie, quand je les entends dire, un hein, député dealer, tout ça, je m'en fiche parce que c'est pas à eux que je veux parler. Et puis, en fait, quand je raconte ça, je raconte une histoire vraie. Je raconte celle d'un jeune précaire à qui le Covid a fait perdre son taf et qui, en gros, a dû trouver un moyen de s'en sortir. Et quand je vois ces gens-là me faire des reproches, alors que eux, ils faisaient quoi à ce moment-là? Parce que encore aujourd'hui, il y a des étudiants en fait qui vendent de la drogue pour financer leurs études. Il y a des étudiantes aujourd'hui qui sont sur OnlyFans, sur Mime pour payer leurs études. Il y a des millions de jeunes qui sont dans une précarité. Et eux, ils sont responsables et ils font quoi pour eux? Mis à part les pointer du doigt, dire tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Moi, j'ai envie de leur pointer du doigt et chaque fois qu'ils viennent me dire ça, je leur dis mais regarde-toi en fait. La honte, elle est de ton côté. Moi, j'ai raconté quelque chose qui est la vie, la réalité de dizaines de milliers de jeunes. Et en fait, je ne suis pas un produit marketing. Je ne cherche pas à être un produit marketing. Je ne cherche pas à faire une carrière politique. Je suis un jeune qui, normalement, n'a rien à faire dans ces institutions-là, qui se retrouve un peu malgré lui et qui va pas mentir en fait. Donc la honte, elle n'est pas de mon côté. Elle est de leur côté.
En plus, au niveau des jeunes, on a tous vu les longues queues pour les colis alimentaires. Il y a eu aussi les JO qui ont fait beaucoup de mal aux jeunes. C'est vrai que là, au niveau des étudiants, c'est très compliqué.
C'est clair. Et donc du coup, en fait, et d'ailleurs, la précarité étudiante, ils ont fait le choix de la laisser faire. Ce n'est pas un débat à l'Assemblée nationale.
il y a eu quand même, je te coupe sur ça, il y a quand même eu le comment dire, l'espèce de blague sur le crous à 1 euro. Oui. D'abord, il avait refusé avant de se l'approprier, etc. Et
c'est ça.
Donc, ça veut dire qu'on voit que même les, comment dire, les mesures pour sortir les étudiants de la précarité, ce n'est pas une chose normale.
Mais parce que dans le fond du fond, le seul moyen qu'il y a de sortir... En fait, les étudiants et même les jeunes en général se retrouvent dans la même situation dans laquelle se trouvaient les personnes âgées, les retraités, avant qu'on ait fait le système de retraite. C'est-à-dire que une fois que les personnes avaient travaillé, avaient le corps bousillé par le travail, ils ne pouvaient plus bosser. Sauf qu'il n'y avait pas de système de retraite. Donc, ils étaient dépendants du fils, de la fille, pour pouvoir survivre. Sauf que si jamais ses enfants étaient pauvres, eh bien, lui aussi, il était pauvre. Parce que, bah, en fait, il était dépendant pour pouvoir survivre. Et bah, les jeunes, c'est la même chose. Quand on est jeune, quand on fait des études, en fait, on n'est pas en capacité d'avoir une autonomie financière qui nous permette de ne pas être dans la précarité. Et en fait, on est dépendant de nos parents pour savoir si jamais on sera un jeune riche ou pour savoir si on sera un jeune pauvre. C'est pour ça que je plaide pour qu'on ait un revenu d'autonomie pour les jeunes, pour qu'on mette pour les jeunes ce qu'on a mis pour les retraités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes retraité, eh ben, vous ne dépendez pas des revenus de vos enfants. Eh ben, moi, je veux que quand on est un enfant, on ne dépende pas du revenu de ses parents. Et donc, voilà la situation dans laquelle se trouvent les jeunes. Une situation de dépendance vis-à-vis d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de gens dont ils sont dépendants. Et il n'y a que la solidarité sociale et nationale qui pourra nous sortir de cette situation. Et c'est pour ça que j'ai déposé une loi pour un revenu étudiant. Et ils m'ont regardé, ils rigolaient. Ah si, ah ça, non, c'est n'importe quoi. Et moi, je leur disais, mais attendez, vous me parlez, vous êtes tous blindés. Vos enfants, en fait, ils n'ont pas à travailler à côté des études. Mais le jour du partiel... Il y en a un, lui, il a passé la moitié de l'année à aller bosser dans un travail difficile, donc il a eu moitié moins de temps que l'autre gosse de riche pour pouvoir réviser. Et ensuite, vous venez me parler d'égalité scolaire ? Alors quand j'ai dit ça, ils avaient une autre tête, ils étaient juste en colère. Mais c'est des sujets qui n'existent pas en politique, et si jamais on ne les fait pas rentrer de force, ils rentreront jamais.
C'est comme ça que s'organise aussi la reproduction sociale. Ça veut dire que les élites vont se reproduire en restant des élites parce que bah, les pauvres, comme je disais, vont devoir travailler plus jeune, pas pouvoir suivre les études, etc. Et c'est comme ça aussi que les riches restent au pouvoir. Est-ce que tu avais une question, Léo ?
Je voulais en profiter, j'en profite. Je reviens sur le fait où tu disais, tu montres et tu t'essayes de le plus dénoncer ceux qui eux-mêmes montrent du doigt par rapport au compte OnlyFans ou ceux qui, par exemple, vont chercher les étudiants qui ont très, très peu de salaire par rapport au JO, je reviens par exemple par rapport à ça. Est-ce que, alors, c'est en deux temps. Est-ce que déjà tu penses que... Est-ce que tu as des idées pour améliorer ça ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à un programme, des choses à améliorer ? Ou est-ce que tu penses juste rester sur le fait de dénoncer et tu préfères confier ça à des gens qui beaucoup plus calés sur ça ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors nous, à la France Insoumise, on réfléchit toujours tout sur la base d'un programme. Mmh. Et notre programme, on l'appelle volontairement programme de rupture. Nous, on veut faire une rupture avec l'ordre social qui est établi, qui a un ordre capitaliste, qui a un ordre autoritaire du fait d'une constitution autoritaire qu'on a, qui a un ordre patriarcal, qui a un ordre raciste, et on veut faire la rupture avec ça.
Okay.
Et donc, nous, pour faire cette rupture, on se base sur un programme. Et notre programme, il s'appelle l'Avenir en commun. Notre programme, il est chiffré. Et donc, du coup, sur le revenu étudiant, alors il y a différentes manières d'organiser les choses et c'est un débat. Et pour le coup, c'est un débat qu'on devra avoir à l'Assemblée et je pense même dans la société. C'est est-ce que le revenu étudiant, il est financé par l'impôt ou est-ce que le revenu étudiant, il est financé par la cotisation sociale ? Est-ce que ça doit faire partie de la sécurité sociale ou est-ce que ça doit faire partie d'un système d'impôt ? Moi, je suis de ceux qui croient que ça doit faire partie de la sécurité sociale. Mais c'est un débat qui est politique. Après, nous, la logique économique qu'on a quand on parle de revenu étudiant, c'est de dire premièrement, si jamais vous donnez ce revenu aux étudiants, ces étudiants, ils vont consommer. Ils vont consommer dans quoi ? Ils vont consommer dans le loyer, ils vont consommer dans l'électricité, ils vont consommer dans la nourriture, ils vont consommer dans les fournitures scolaires et de temps en temps se faire une sortie culturelle. Ce n'est que de l'argent que vous injectez dans l'économie et qui ensuite circule, fait rentrer de nouvelles cotisations, fait rentrer de nouveaux impôts. Et du coup, c'est un système qui s'autofinance. Nous, la stratégie qu'on a à la France Insoumise, c'est de dire... Puisque l'économie française est en berne actuellement, parce qu'ils ont tout désindustrialisé, on va donner un immense coup de boost dans l'économie en réinjectant de la monnaie, en donnant de la monnaie au peuple, et ce peuple va le consommer. En le consommant, ça va créer du travail. En créant ce travail, ça va permettre de continuer de consommer plus. Et ce cycle vertueux-là, on va le mettre au service d'une planification écologique, c'est-à-dire qu'on va réorganiser la production pour en faire une production respectueuse de la nature. C'est la philosophie, c'est la logique politique dans laquelle on inscrit notre programme. Donc, si jamais j'arrive devant un libéral, un capitaliste, je lui présente le revenu étudiant, pour lui, c'est une aberration. Mais nous, on ne réfléchit pas dans ce mode de pensée-là. On réfléchit dans un autre mode de pensée. Et donc, du coup, oui, tout ça, c'est dans le programme L'Avenir en commun. Et quand on aura la majorité à l'Assemblée nationale et la présidence de la République, j'espère être de ceux qui auront l'honneur de le faire. En tout cas, je ne crois pas que c'est que dans l'Assemblée nationale qu'on change les choses. Et en fait, à partir du moment où nous, on prendra le pouvoir, par exemple sur la question de la précarité étudiante, on va avoir besoin d'avoir des étudiants qui fassent des manifestations, qui fassent des pétitions et qui nous mettent la pression pour nous dire « appliquez le programme, appliquez le programme ». Donc, est-ce que je serai dans la rue ou est-ce que je serai dans l'Assemblée? Je ne sais pas, en tout cas, j'en serai.
Donc tu penses, si par exemple, tu arrives à passer à l'Assemblée nationale et que tu penses continuer sur cette voie, là, tu continuerais pas vers des voies plutôt d'avocat, mais... Tu continuerais en tant que député et voir plus loin?
Nous, la chronologie qu'on a, enfin en tout cas moi l'état d'esprit dans lequel je suis, il y a une élection présidentielle en 2027 et il y a des élections municipales en 2026. L'élection présidentielle de 2027, ça va être la gauche radicale, donc nous, contre l'extrême droite. Par ailleurs, l'extrême droite, ils ont un immense problème parce que à l'origine, les milliardaires, donc les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, ils soutenaient Macron. Sauf que là, ils sont en train de comprendre que le macronisme est en train de s'effondrer. Et donc, du coup, il faut soutenir un autre candidat. Ils aiment bien l'extrême droite. Pourquoi ? C'est génial. En France, on passe notre temps à parler des musulmans. Et donc, du coup, on ne parle pas du fait que ces gens, ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Et c'est organisé.
Et il y a autre chose. Ça fait très longtemps que l'extrême droite, c'est le parti préféré des patrons, en fait. Le 440, c'est la réunion des grands patrons. Et on sait que depuis très, très longtemps, les grands patrons votent à l'extrême droite parce qu'effectivement, non seulement ils vont dire que les étrangers sont les méchants, etc., mais surtout, ils sont très, très libéraux. Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait peu d'impôts, peu de solidarité, peu de redistribution. Et donc, en fait, les riches resteraient riches aussi avec l'extrême droite au pouvoir.
Et du coup, c'est tout le problème des milliardaires et de l'extrême droite. C'est que Marine Le Pen devait être leur candidat, sauf qu'elle a piqué du fric, elle ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. Là, du coup, ils sont en train de se dire, bon, bah, Jordan Bardella, sauf que tout le monde voit que c'est un type de 30 ans qui, mis à part lire des fiches et répéter des éléments de langage, est un incompétent dès qu'on rentre dans du technique. D'accord. Dans un moment où il y a Donald Trump qui est en train de réorganiser l'ordre géopolitique mondial, ils ne peuvent pas avoir ce type pour défendre l'intérêt des riches en tant que président de la République. Donc, moi, je crois qu'ils vont soutenir l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, dont ils font allègrement la publicité. Et donc, du coup, je crois que ça va être un candidat de chez nous. Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Clémence Guettet ou Manuel Bompard? On verra. En tout cas, ce sera un candidat de chez nous. Contre M. Retailleau. Et à ce moment-là, le samedi avant le second tour, il va y avoir des repas de famille qui vont être très intéressants. Et je crois que ça va être la jeune génération qui va faire la bascule.
D'accord.
Ce qu'on voit, il y a un sociologue qui s'appelle Vincent Thiberge qui a fait une étude et qui parle de socialisation inversée. Là où à l'époque, c'était les parents qui donnaient un peu les codes et les normes et les valeurs aux jeunes, aujourd'hui, on voit que ce sont les jeunes qui influent leurs parents sur la norme et sur les valeurs.
Bah, par exemple, pour rebondir sur ça, on avait commencé par exemple au début de l'émission sur les jeunes qui sont ultra connectés. Et donc, bah, les parents vont beaucoup transmettre, mais par exemple autour de moi, donc par exemple dans mon lycée et au-delà dans les activités extrascolaires, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont déjà un parti pris, qui sont déjà...
Qui est celui de leurs parents, ou qui leur ont transmis, ou qui se l'ont créé lui-même.
C'est que, par exemple, bah, avec les réseaux sociaux, on peut se le créer via cette voie-là, et pas forcément les parents. Donc déjà, bah, y a beaucoup plus de sujets à table par rapport à ces débats. Mais c'est surtout que on peut voir, par exemple, que dans mon lycée, il y en a beaucoup, donc, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont partis pris, et il y en a qui sont, pour le Rassemblement National, des choses comme ça. Est-ce que tu penses de ton point de vue, parce que moi je pense que les réseaux sociaux c'est très bien pour s'informer, on n'a pas qu'un avis, on a plusieurs avis, mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux qui mettent beaucoup plus en avant par exemple des polémiques ou des choses comme ça, est-ce que tu penses qu'on peut être mal informé et avec des intox ou être forcément mis en avant, mettre en avant des choses qui ne sont pas forcément primordiales et c'est...
Il y a un problème, c'est que nous, on joue pas à égalité sur Internet. C'est-à-dire que l'extrême droite utilise massivement des bots. Par exemple, quand je poste quelque chose, il y a des commentaires qui sont générés automatiquement de gens qui sont là pour m'insulter. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres à gauche. Jordan Bardella, pardon, mais vous regardez sa courbe d'abonnés. À un moment, vous avez une courbe qui est droite comme ça. En Internet, ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des bots qui ont soutenu le compte de Jordan Bardella.
Et tu penses de gauche, il n'y aurait pas
de
ça ?
De gauche, ça n'existe pas pour une raison simple, c'est que ceux qui font ça, c'est des milliardaires. C'est des terrains, c'est des Bolloré. À gauche, bah, quand t'es milliardaire, t'as pas trop intérêt
oui,
à être de gauche,
gauche
parce qu'on va venir chercher ce qu'ils ont volé au peuple. Bref. Donc,
oui.
Du coup, on ne fait pas armes égales sur Internet parce qu'il y a aujourd'hui des pouvoirs économiques et parfois même des pouvoirs politiques. Mm-hmm. On a vu dans de nombreuses élections partout dans le monde des pays qui, à travers ces bots, essayent d'influencer le résultat des élections. Et donc, oui, Internet, c'est un monde qui est, où on ne fait pas armes égales. Et je crois, parce que par exemple, il y avait le débat que Attal avait posé sur interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Ouais.
Je crois que c'est une grave erreur. Je crois que c'est une immense erreur. Parce que, premièrement, couper les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, je pense que n'importe quel jeune sait installer un VPN ou faire la recherche qui permet de trouver le VPN gratuit qui permet de contourner.
Mm-hmm.
Mais surtout, en fait, les réseaux sociaux font partie de notre vie et feront toujours partie de notre vie. Et je suis de ceux qui croient que, plutôt que de priver les jeunes de ça, il faut plutôt que le système scolaire organise la formation des jeunes pour leur expliquer comment utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à expliquer. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux existent ? Parce qu'ils veulent vos données. Quelles données ils cherchent ? Comment est-ce qu'ils les récupèrent ? Les systèmes de boucle aussi. On a un gros problème aujourd'hui, c'est quand vous avez, quand vous êtes abonné avec des gens de votre classe, que vous avez un élève qui se sent pas bien, il a une dépression, faut dire les choses, et qui republie du contenu qui font écho à sa dépression, parce qu'il y a du contenu qui est spécialement ciblé pour les personnes qui sont en dépression. C'est repartagé à d'autres élèves qui ont du coup du contenu qui les met dans une situation de malaise. Donc, faut gérer ces situations de boucle et faut les expliquer aux jeunes,
d'accord,
parce que c'est eux qui doivent les prendre en main.
Donc, tu penses éviter de censurer, mais plutôt régler ces problèmes-là,
oui,
et plutôt à la place de vouloir absolument censurer, essayer de mobiliser et de faire attention à ce que les jeunes soient beaucoup plus dans un centre moins polémique par rapport aux réseaux sociaux et plus leur dire, bah, informez-vous, essayez de voir les différents partis, les choses comme ça.
Ouais. Oui,
d'accord.
Et premièrement, il faut éduquer les jeunes, et deuxièmement aussi, la politique et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très jeune.
Mmh.
En fait, en réalité, Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle de 2017, en avait fait quelque chose, qui de 2017 à 2022 avait été utilisé par les députés insoumis, puis en 2022, quand il y a une nouvelle génération de politiques dont je fais partie, qui arrivent sur les réseaux sociaux,
mmh,
on repasse encore des caps. C'est très bête, mais en fait, prendre une intervention politique, faire passer trois petits mots qui défilent constamment, mettre une musique en fond, mettre des cuts et mettre des zooms, ça c'est 100% code d'Internet, mais c'était pas fait avant.
Mm-hmm.
Donc du coup, nous, on a apporté ça. Et aujourd'hui, alors au début, on m'appelait le député TikTok, maintenant même Monsieur Retailleau l'a fait. Et donc
oui,
du coup, même
okay,
des personnes qui étaient éloignées de ces codes d'Internet, aujourd'hui se mettent à se les approprier. Mais c'est ça qui est génial avec Internet, c'est que c'est une culture et donc c'est mouvant. Je me rappelle YouTube, il y a 5-6 ans, c'était
l'épicentre,
n'importe quoi.
C'était l'épicentre de tout.
Mais regarde, et je vais donner un exemple, Squeezie. Squeezie, à l'époque, ses vidéos, il hurlait partout, il faisait tac, 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 tac. Et Squeezie, il s'est adapté à la nouvelle culture YouTube,
qui
est un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus chill, beaucoup plus travaillé. Et la politique sur les réseaux sociaux, c'est aussi une culture qui est amenée à évoluer. Et donc, à la fois, je crois qu'il faut former les jeunes à s'éduquer aux réseaux sociaux, et le système scolaire doit prendre sa part dans tout ça. Et deuxièmement, bah, en fait, c'est nous qui influençons cette culture aussi. Et je crois qu'elle évoluera.
Est-ce que tu penses que, donc, si tu dis que, pour l'instant, la politique a donc ces codes-là sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que, donc, les politistes, ceux qui, les politiciens, principalement, doivent aussi eux-mêmes, du coup, comme les influenceurs, les youtubeurs qui, eux, avant, doivent changer et évoluer. Par exemple, en faisant, par exemple, moi, ce que j'ai vu, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu as principalement du contenu très polémique. Par exemple, moi, ce que j'ai entendu de toi, bah, évidemment, y a eu l'affaire avec Cyril Hanouna. Il y a eu, par exemple, que tu t'as vendu de la drogue ou des choses comme ça. C'est des choses plutôt polémiques. Et par exemple, même chose pour le Rassemblement National, même chose pour Mélenchon, que ce soit Macron, c'est plutôt des mèmes, des choses beaucoup plus qui détournent du programme que vous avez. Est-ce que tu penses que, du coup, les politiques... Je vais y arriver,
Oui, très bien, les politiques,
ouais,
je
peux
le dire, ça se dit comme ça, t'inquiète pas.
Les politiciens, les politiques, eux aussi, doivent faire un effort pour changer et mettre plutôt un programme beaucoup plus, comment dire...
Mettre leur programme en avant et pas de la polémique,
voilà,
c'est ça.
Et pour le coup, alors je suis d'accord avec ça, et pour le coup, nous, c'est ce qu'on fait. Pour le coup, quand on regarde le contenu que je fais sur les réseaux sociaux, c'est constamment des interventions qui montrent un raisonnement, donnent des chiffres, développent des arguments... Et c'est quelque chose que je me suis toujours interdit de faire. J'ai dû le faire une deux fois parce que ça me faisait vraiment marrer. Mais par exemple, ce que font Attal et Bardella, je suis radicalement contre. Ce que j'appelle le fan service. C'est-à-dire, ils ne font pas du contenu politique. Exactement. Ils font seulement du truc où ils sont là en mode « Regardez, je suis chef d'un parti, mais je me descends une bière comme ça. »
Ou je mange des bonbons.
Ou voilà, où je mange des bonbons. Je m'interdis de faire ça de temps en temps parce que c'est rigolo, mais ce ne sera jamais la base de mon contenu. Parce que ce que je cherche à faire, c'est élever le niveau des consciences. C'est donner des arguments, faire réfléchir les gens. Et puis après, la polémique, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Oui. Parce que, en fait, c'est par la contradiction, c'est par le conflit que naît la conscience. Si jamais il n'y a pas un moment, ce moment de conflit, cette rupture avec le conflit, et ben en fait, vous n'avez pas deux pensées différentes qui se mettent à apparaître. Et quand il y a deux pensées différentes qui se mettent à apparaître, alors il faut écouter l'une, il faut écouter l'autre, il faut se faire un avis. Parfois, ça fait émerger une troisième pensée. Et c'est pour ça que pour nous, ce qu'on appelle la conflictualité, c'est indispensable en politique parce que c'est ce qui permet au débat politique d'être intéressant et c'est ce qui permet de faire réfléchir les gens. Et nous, notre objectif, c'est pas que les gens ils votent bêtement pour nous. Nous, notre objectif, c'est que les gens ils se disent « Ok, pourquoi ils ont ce programme ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Attends, mais maintenant que je suis en phase, mais j'ai envie d'aller leur filer le coup de main. » Nous, on ne cherche pas à être un parti politique. On cherche à former un peuple révolutionnaire. Parce qu'on veut une révolution citoyenne. D'accord. Ce peuple révolutionnaire, il peut exister qu'à partir du moment où les gens sont informés, conscients, ont un avis. Et cet avis, on le fait émerger par la conflictualité.
Donc, est-ce que tu penses que... Donc, tu me dis si c'est ça. Est-ce que pour toi, de ce que j'ai compris, la polémique est une certaine... arme entre guillemets, hein.
Ça crée du débat.
Ça crée du débat et c'est un moyen donc de se faire entendre.
Oui, exactement.
Alors c'est là où je veux en venir. Est-ce que ce que je pense de ce que j'ai vu et de ce que les élèves autour de moi voient, parce qu'on commence à avoir des débats politiques et on se rend compte, et puis il y a ça aussi sur les réseaux sociaux quand on demande par exemple des gens qui viennent sur les manifestations, ils vont sur le terrain, ils demandent aux gens. Et en fait, tu te rends compte que si tu... Bah, que ce soit la gauche ou la droite, tu te rends compte que si tu approfondis le sujet, le gars qui est interrogé, il commence un peu à se perdre et il commence un peu à être sur la défensive et il commence à dire non, mais c'est... il déforme un peu. Et on se rend compte qu'en fait, y a énormément de gens qui vont voir quelque chose, ils disent « Ah, ce gars-là, je comprends ce qu'il veut dire. Bon, je suis à fond avec lui. »
Et qu'ils ne vont pas chercher plus loin, c'est ça ?
C'est ça, ils ne vont pas aller chercher plus loin. Donc, moi, ça serait de mon point de vue, mais donc, je voudrais avoir le tien. Est-ce que tu penses que des polémiques... Moi, je pense que les polémiques peuvent être un moyen de dénoncer et de confronter, mais ça, c'est aussi un moyen, c'est aussi quelque chose où les jeunes, ils vont en voir, ils vont se dire « Ah, celui-là, il est super, mais ça ne va pas plus loin. » Et il n'y a pas non plus...
Après, on n'approfondit pas assez, c'est ça que
voilà,
tu veux dire.
Voilà, c'est ça.
Mais alors oui, ça peut exister, mais en vérité, on est jeune. Enfin, on peut pas attendre non plus d'une personne à 17 ans qu'elle ait une culture politique, philosophique et géopolitique générale. Donc, et ça fait partie de la construction d'un avis politique. Moi-même, j'ai 24 ans, je maîtrise pas tous les sujets, et parfois j'ai des certitudes qui se retrouvent bousculées, et donc je réfléchis, je revois un peu la manière de réfléchir. Après, ensuite, je crois pas que les, je crois que c'est une bonne chose que y ait des jeunes qui se disent, j'ai envie de suivre cette personne. Parce qu'un jour, elle se dira « Ah ben en fait, non, peut-être que je me suis trompé. » Donc, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a polémique et polémique. Des polémiques qui ont du fond politique, par exemple, une polémique sur la réforme des retraites, sur la démocratie, ça, c'est une bonne chose.
Oui.
Mais alors, les polémiques sur telle personne a parlé trop fort, ou telle personne a ci, ou telle personne a ça, là, je trouve ça pas intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond politique des choses. Et aujourd'hui, j'observe que dans le système médiatique, quand on parle de la France insoumise, on fait tout sauf de parler de fond politique. Et je vais donner un exemple, Jean-Luc Mélenchon. Le traitement médiatique autour de Jean-Luc Mélenchon est aberrant. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais on parle quand même d'une personne qui a reconstruit la gauche, d'une personne qui a écrit une quinzaine de bouquins, qui a réactualisé la philosophie politique de gauche, formé un grand parti politique, qui a inspiré une génération, qui a une notoriété internationale, enfin, qui a un lettré, qui est une personne extrêmement cultivée, qui a suivi un cursus de philosophie. C'est ça l'homme dont on parle.
Okay.
Et on allume la télévision et regardons quels sont les sujets dont on parle quand Jean-Luc Mélenchon parle. Et ça, je ne suis pas naïf. Ça, c'est quelque chose qui a été organisé dans un bureau par des patrons de presse qui se sont dit « Très bien, notre ligne éditoriale, c'est abattre la France insoumise. Et le meilleur moyen d'abattre la France insoumise, c'est de ne jamais parler politique avec eux. » Parce qu'à partir du moment où on commence à parler politique avec la France insoumise, on découvre que, un, on est les seuls à avoir un programme, et que deuxièmement, bah, en fait, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que si on fait ce que l'on fait, c'est qu'on en a des raisons, que c'est réfléchi et que sur le fond, on est capable de le justifier. Ce que je n'ai jamais pu avoir dans un seul débat à la télévision.
Donc,
j'avais juste une question sur ça. Une des raisons pour lesquelles aussi tu utilises beaucoup TikTok, c'est parce qu'on voit que les grands médias sont beaucoup tenus par l'extrême droite. Ouais. Et il y a un débat là-dessus sur est-ce que les personnalités de gauche doivent continuer à y aller.
Oui.
Toi, tu penses que vous devez continuer totalement à investir absolument tous les espaces.
Absolument tous les espaces.
Même s'ils sont tenus par des milliardaires et que ça pose totalement un vrai problème de démocratie.
Parce que quand on est un militant politique, il faut aller partout où on peut pour essayer de convaincre. Et même si jamais c'est pour aller prendre des coups, même si jamais c'est que pour convaincre une personne, et bah si on a convaincu une personne, c'est déjà ça. C'est comme
même
quand
si tu te fais piéger comme ça t'est arrivé la fois où on en parlait tout à l'heure quand il t'a insulté Cyril Hanouna, tu le referais parce que tu penses qu'il faut y aller, faut
aller
parler.
Mais je pense qu'il faut toujours y aller. Premièrement, il faut toujours y aller parce que notre devoir de militant politique, c'est de convaincre chaque personne. Et donc chaque petit pouce de terrain qu'on peut obtenir, il faut y aller. Par exemple, je vous donne un exemple, les ronds-points des gilets jaunes. Et parfois on n'était pas toujours bien accueillis, mais il fallait y être. Les sorties d'usine, et ben parfois on n'est pas toujours bien accueillis, mais il faut y être. Et aussi parce que les médias, à nos yeux, c'est un bien commun. Les médias, ils sont censés appartenir au peuple et pas à quelques milliardaires. Et c'est pas parce que 9 milliardaires ont volé ce bien qui appartient au peuple que le peuple doit déserter ces espaces qui leur ont été volés. Et donc, même sur un fond politique et pas que stratégique, je considère que parce que ça nous appartient, on doit y aller pour être constamment le petit grain de sable dans l'engrenage qui fait tout tomber. Et je terminerai par une chose, c'est trop rare en fait d'avoir des gens comme nous qui pouvons parler dans les médias. Parce que vous regardez par exemple, les CSP+, sont 3 fois plus représentés que les ouvriers, alors que les ouvriers sont beaucoup plus nombreux dans la société. Et en fait, le peuple n'existe pas dans la télévision. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un ouvrier à la télé ? C'est quand, quand la dernière fois qu'on a vu des jeunes, mais voilà, qui n'est pas le fils de quelqu'un, genre je vous donne Louis Sarkozy par exemple, fut un temps. Enfin, en fait, le peuple n'existe pas à la télévision. Donc quand on a l'occasion d'incarner la parole du peuple à la télévision, il faut le faire.
D'accord. Mais le fait aussi, tu le disais, il y a 9 milliardaires qui ont la main mise sur l'audiovisuel public. Est-ce que vous, à LFI, vous avez une loi, quelque chose contre la concentration des médias?
Oui.
En fait, la concentration des médias, c'est quand des milliardaires, ils ont tous les médias à eux. Et là, on voit que Drahi, Bolloré, Bouygues, etc., tous les médias leur appartiennent. Et donc, en fait, ça pose un vrai problème de démocratie parce que c'est eux qui vont définir la ligne éditoriale de leurs journaux. Et qu'après, en fait, on va dire que ce que eux, entre guillemets, ont envie de dire. C'est les premiers vecteurs de l'information.
Et bah, est-ce que déjà, pour en revenir sur les réseaux sociaux, parce que c'est, tu es principalement axé sur ça. Et enfin.
C'est un canal d'expression qu'il privilégie, on va le dire comme ça.
C'est mieux dit. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, du coup, sont une bonne chose parce que il y a moins de mainmise dessus et donc les jeunes, du coup, ont beaucoup plus libre à énormément plus d'informations diverses.
Oui, et je crois que les réseaux sociaux font que la jeunesse est actuellement en train de changer le monde. Je vais donner un exemple. MeToo. Nous, on est une génération qui a grandi dans MeToo et qui a permis de changer les rapports entre les femmes et les hommes et qui font qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, sur ces questions-là, elles sont plus seules, quoi. Et donc ça, c'est grâce aux réseaux sociaux.
Mais on voit aussi que les réseaux sociaux, ça a l'effet pervers aussi parce qu'on voit des influenceurs d'extrême droite très masculinistes qui parlent beaucoup aux jeunes et donc qui sont peut-être les causes aussi des jeunes qui se rallient à l'extrême droite. Hein.
Oui,
mais du coup, il y a le débat.
En tout cas, sur les questions de jeunesse et sur les questions de réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a des adversaires. Enfin, franchement, sinon, ce serait trop facile. Mais il ne faut pas sous-estimer notre force. En vrai, quel est le bilan de l'extrême droite sur les réseaux sociaux ? Enfin, ok, il y a des influenceurs masculinistes, c'est un problème. Il y a Jordan Bardella et compagnie, c'est un problème. Mais regardons, nous, en quoi on est un problème pour eux. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est MeToo. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est le mouvement des Gilets jaunes. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est les mouvements de révolte après la mort de Naël. C'est les marches pour le climat. C'est les marches pour la Palestine. Les réseaux sociaux ont été un facteur d'auto-organisation du peuple et de la jeunesse qui a forgé une génération où nous, on n'a que connu ça. Tous les ans, il se passe quelque chose. Si c'est pas les gilets jaunes, c'est les manifs retraite, ou c'est les manifs palestines, ou sinon c'est MeToo, ou sinon c'est les marches climat. On est une génération qui a un ADN, qui a un ADN de révolte et qui est un ADN révolutionnaire, et on le doit aux réseaux sociaux. Alors, il faut continuer la bataille, pied à pied, mais il faut pas se sous-estimer non plus. Parce qu'aujourd'hui, notre principal désavantage, c'est pas qu'il y a beaucoup de racistes en France. Notre principal désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de nos copines et de nos copains qui vont pas voter. Vous regardez aujourd'hui la manière dont se répartissent les votes. Vous avez 25% pour l'extrême droite, 25% pour Macron, 25% pour la gauche, 25% qui s'abstiennent. C'est dans les 25% qui s'abstiennent qu'on peut réussir à trouver une majorité dans ce pays. Et ça, on peut le faire grâce aux réseaux sociaux. grâce au militantisme politique. Et quand je vois que les témoignages que tu me donnes, c'est-à-dire deux jeunes de 15 ans qui réfléchissent, qui discutent, qui débattent, et qu'à la fin, je vois que aux dernières élections, la moitié des jeunes ont voté pour la gauche, bah, moi, je considère qu'on fait du bon boulot.
Tout à l'heure, tu parlais aussi de la question de la gauche, des prochaines élections, etc. On sait que LFI, du coup, est très diabolisé. C'est un mouvement, du coup, qui divise beaucoup. On l'a vu notamment la semaine dernière au congrès du PS, où il y a eu des propos très durs, notamment de la part de Jérôme Guedj. On sait que au Parti communiste, ça fait débat aussi. Chez les Verts, ça fait débat aussi. Avec quelle gauche tu te vois, enfin, tu vois ta famille politique avancer pour les municipales, puis pour les présidentielles?
Nous, c'est pas compliqué. La France insoumise, faut voir comment on nous avait traités en 2017. Faut voir comment ils nous avaient traités en 2022. À chaque fois, on leur a dit, écoutez, si vous êtes capable de venir vous engager sur la base d'un programme de rupture, qui est celui que l'on porte, il n'y a pas de souci, on peut avancer ensemble. Vous me permettrez d'observer que, pour beaucoup d'entre eux, ils signent des programmes et puis ensuite, 2 mois plus tard, ils décident de plus les respecter, voire même carrément de refuser de censurer le gouvernement illégitime de M. Bayrou, alors que c'est nous qui sommes arrivés en tête lors des dernières élections. Je ne suis pas de ceux qui regardent les étiquettes politiques. Moi, je suis de ceux qui regardent l'engagement politique et l'adhésion aux idées politiques. Pour les élections municipales, par exemple, à partir du moment où vous êtes d'accord pour faire un programme de rupture à l'échelle municipale, bienvenue. À partir du moment, pour les prochaines élections présidentielles, si vous êtes d'accord avec la Révolution citoyenne, la 6e République et toute une série de mesures qui sont dans les programmes communs qu'on a fait, bienvenue. Mais alors par contre, si jamais c'est pour arriver et dire, alors qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils perdent toutes les élections, venir nous donner des leçons en disant, ah bah non, pas Mélenchon, enfin, bon d'accord, pas Mélenchon, Bompard, ah non, pas Bompard, bon d'accord, Guetté, ah non, pas Guetté, bon, Panneau, ah non, pas Panneau, bon bah vous voulez qui? Vous voulez juste pas la France insoumise? Et puis franchement quoi, j'ai envie de dire 2 choses. Un, premièrement, vous avez déjà gouverné, on a vu le résultat. Un, deuxièmement, enfin... On a fait nos preuves, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc moi, je serai toujours un unitaire parce que c'est le chemin le plus court pour accéder au pouvoir. Mais je ne suis pas un unitaire au détriment de mes convictions. Je ne mettrai jamais mes convictions et mon programme de côté pour m'allier à des gens qui ne partagent pas nos convictions et ne partagent pas notre programme. D'accord. Voilà un peu le cadre dans lequel on évolue.
Le programme, que le programme. Du coup, on sait que tu as aussi un programme pour l'école. On en a parlé un petit peu, on va y revenir. En ce qui concerne l'enseignement, tu milites pour le 8h-13h. On sait que tu as interpellé beaucoup de personnes, Macron, Elisabeth Borne, à ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt du, ce que c'est déjà et l'intérêt du 8h-13h pour toi?
Le 8h-13h est absolument incroyable. Pas le 8h-13h, c'est pas la revendication qui est incroyable. C'est tout ce qu'il y a autour de cette revendication. On a des jeunes qui aujourd'hui se trouvent pris dans un système scolaire qui ne leur correspond pas. Regardez une voiture il y a 50 ans, une voiture aujourd'hui. Une cuisine il y a 50 ans, une cuisine aujourd'hui. Ça a bien changé. Une salle de classe il y a 50 ans, une salle de classe aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui viennent expliquer que par le manque de moyens, de professeurs, par la pression de la sélection à travers les spécialités, le contrôle continu, Parcoursup, l'orientation forcée et subie, tout ça fait qu'il y a un mal-être chez les jeunes aujourd'hui. Et l'école n'est pas adaptée pour répondre à ce mal-être. Et donc on a des jeunes qui sont arrivés et qui ont dit « Bon bah nous, la revendication qu'on pose pour essayer de répondre à ce mal-être, c'est 8h-13h. » Et ils font une pétition. La pétition perce. Et puis ensuite, je fais une grande consultation, j'en fais des questions au gouvernement. Et à la fin, Macron, il a organisé une convention sur les temps de l'enfant. Et en fait, on a des jeunes qui se sont auto-organisés sur les réseaux sociaux et qui ont gagné. Et pour moi, c'est incroyable. Des jeunes qui s'auto-organisent, qui obtiennent une victoire par une lutte sur les réseaux sociaux, on coche les 3 cases des trucs que j'adore, quoi. Et donc, moi, je suis pas... C'est pas le 8h-13h que je défends. Ce que je défends, c'est le fait qu'on ait une consultation générale des collégiennes, des collégiens, des lycéennes, des lycéens, et qu'on leur demande à quoi vous voulez que ressemble l'école. Pas pour qu'on voit uniquement l'école à travers le prisme des jeunes, il faut en parler aux parents, il faut en parler aux enseignants, mais je crois que quand on a le symptôme d'un tel mal-être dans l'école, et qu'on a cette forme d'auto-organisation de la jeunesse, il faut la respecter et il faut l'écouter. Et si je peux juste terminer sur ça, Macron organise une convention des temps de l'enfant après le mouvement 8h-13h qui a été fait par les collégiens et les lycéens. Ils sont entre 3 et 5% de collégiens et de lycéens représentés dans cette convention. J'ai fait un courrier au président de la République, je lui ai dit « Ne faites pas ça, je veux qu'ils soient plus nombreux ou qu'il y ait une assemblée avec que des collégiennes et que des lycéens. » Ça n'a pas été entendu. Donc pour la rentrée prochaine, on va pas le lâcher, mais il va se passer quelque chose et nous on est prêts en tout cas. Et on va se faire entendre. Voilà, moi, ce que je vois à travers 8h-13h.
Léo, toi, c'est des choses que tu as pu constater au lycée, les absences de professeurs, les emplois étant trop lourds, etc.
J'ai pu en parler plutôt bien le voir, parce que là, je suis en seconde.
Ouais.
Donc, j'ai pu voir le passage au lycée, par exemple. Et que ce soit autour de moi. Donc, moi, je suis à Saint-Étienne. Et que ça soit autour de moi. Et par exemple, y a un exemple un peu qui montre plutôt bien. On a des correspondants. Qui viennent par exemple chez nous et Alors, on a une classe où il y en a eu plutôt pas mal, il y en a eu trois. Il y a eu deux Allemands et une Italienne. Et les deux Allemands, à la fin de... Alors, plutôt un sur deux, on lui a dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? On a fait un petit bilan de l'année. Il nous a dit, bah, moi, ce que je trouve au niveau de la France, c'est que c'est épuisant, les journées. Moi, honnêtement, je ne pourrais pas. Après, nous, en tant que, vu qu'on est habitué à ça depuis longtemps, depuis le collège et même presque la primaire, on a plus l'habitude. Et quand je regarde autour de nous, bah, il y en a beaucoup qui sont fatigués, mais honnêtement, je pense que ce n'est pas trop non plus lié aux
Que à l'école.
8h, 18h. Voilà, ce n'est pas forcément lié que à l'école. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que là où ça peut poser problème, c'est au niveau des horaires pour les activités extrascolaires, les choses autres que l'école, le lycée, le collège. Par exemple, avoir plus de temps pour nous pour sortir, mais pas forcément pour rester chez nous, mais pour avoir du temps pour avancer sur d'autres choses. Et ça serait plutôt ça.
En fait, le modèle allemand, c'est justement ça. Ça veut dire
C'est
qu'on fait les
exactement ça.
matières, on fait les,
8h, 13h, et ensuite, il y a un entraînement.
on fait les matières fondamentales, mathématiques, histoire, français le matin. Et en fait, l'après-midi, il y a plus d'accès à la culture et au sport notamment. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui se dépensent plus, qui vont, comment dire, qui vont multiplier un petit peu les prises d'informations qu'ils ont et qui vont être soumis à plus de stimulation, j'ai envie de te dire.
Oui.
Et c'est ça l'intérêt, en fait.
Mais je trouve y a un truc dans cette discussion qui en fait est une discussion assez naturelle parce que c'est le seul système scolaire que tu as connu. Mais à l'époque, le lycée dans lequel tu étais, il était inimaginable pour nous.
Oui.
Parce que ce que Macron, l'endroit dans lequel Macron a attaqué le plus fort la politique, ça a été dans l'école. Parce que il faut que les parents se rendent compte. En fait, quand on est un jeune aujourd'hui, on arrive en seconde. Et la seconde, c'est le moment où il va falloir se battre pour avoir les épreuves de spécialité. Les épreuves de spécialité, elles vont être déterminantes pour savoir si on aura la bonne filière Parcoursup ou pas. Dans le même temps, il y a le contrôle continu, qui lui est déterminant pour le baccalauréat, qui en même temps est déterminant pour pouvoir plus tard aller à l'université. Ce qui fait que chaque note, chaque contrôle, chaque jour, chaque choix met une pression pour que des gamins entre 15 et 18 ans soient mis en compétition pour savoir quelle sera la formation et le métier de leur vie. Et je passe sur la question de la troisième, dans laquelle il y a une orientation forcée et subie en voie professionnelle qui est teintée de sexisme, de classisme et de racisme, et qui est désastreuse parce que la voie professionnelle, c'est l'une des voies les plus incroyables de France. Et en fait, on parle tout le temps de la mauvaise image de la voie professionnelle parce que c'est le système scolaire qui donne une mauvaise image de la voie professionnelle. Et pour le coup, si jamais on fait... Et pour le coup, c'est même assez réfléchi comme truc parce que pourquoi est-ce qu'on dévalorise les gamins de la voie professionnelle? Parce que ces enfants, on leur dit, ah bah toi, t'es capable de faire fonctionner une quinzaine de machines différentes, t'es capable de gérer une restauration scolaire, t'es capable de faire des métiers du soin. Mais par contre, c'est la mauvaise filière. Donc du coup, plus tard, ça justifie que dans ton métier, t'as un salaire qui soit pas si grand que ça. Alors qu'en vrai, les gens qu'on forme dans la voie professionnelle, c'est quoi? C'est les essentiels. C'est les gens qui, s'ils se mettent en grève, en 3 jours, la France est pliée. Et donc, dès le plus jeune âge, on met dans la tête de ces enfants que, bah, ils sont dévalorisés pour qu'ils se dévalorisent eux-mêmes et qu'ils ne prennent pas conscience de leur poids et de leur force. Pour moi, c'est le cœur du problème de l'éducation. C'est la compétition, c'est la sélection et c'est le dévolu qu'on rejette sur des filières qui sont cruciales pour notre pays. Et je donne l'exemple de la voie professionnelle.
Alors, bah, ça serait pour continuer dans cette voie. Par rapport, bah, je reprends juste l'idée, par exemple, de compétition et de choses comme ça, pour avoir des métiers beaucoup plus valorisants. On en a parlé récemment, du coup, avec certains de nos amis, et on s'est dit, mais il y a une grosse différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend principalement... Alors, par contre, là, je te rejoins sur quelque chose, c'est que en troisième... Alors, en troisième, on voit beaucoup plus l'orientation, et en seconde, on voit beaucoup plus la professionnalisation. Et même si la seconde est pas trop, n'est pas prise en compte pour l'instant, n'est pas prise en compte pour Parcoursup, c'est plus la première et la terminale, mais il y a un peu un manque d'orientation et de choses comme ça, je trouve. Après, c'est sûrement...
D'informations sur l'orientation. Vous connaissez pas assez les différentes
Alors,
filières que vous pourriez faire,
honnêtement,
etc.
c'est mon collège et mon lycée où, selon moi, il n'y a pas eu trop de choses orientées là-dessus. Après, c'est aussi une part de l'élève. C'est très normalement, il doit le faire lui-même. C'est beaucoup plus. Enfin, moi, je pense que c'est beaucoup plus autonome, même si le collège doit mettre beaucoup plus en avant ces choses-là. Mais par contre, je voulais revenir sur quelque chose. Entre hier et aujourd'hui, il y a aussi une différence, c'est que quand on demande à quelqu'un, quand on demande à un adolescent, un jeune, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire, on va surtout lui poser qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimerais faire. Alors que, par exemple, bah, j'ai posé la question autour de ma famille. Toi, comment tu as pu faire ta professionnalisation? Comment tu es arrivé jusqu'à avoir un boulot? Et moi, ils m'ont répondu cash, ils m'ont dit, mais moi, si j'avais un salaire, j'étais aux anges. Et c'est ça, je trouve, la différence qu'il y a entre aujourd'hui et hier. C'est qu'aujourd'hui, il y a non seulement l'histoire de salaire, mais aussi qu'est-ce que je veux faire. Alors que, bah, avant, c'était bah, je m'en fous de ce que je veux faire tant qu'il y a un salaire. Et il y a beaucoup de métiers qui sont difficiles, que personne n'a envie de faire. Et malheureusement, il faut qu'il y ait des gens qui passent par là. Donc, je pense que c'est ce qui justifie cet esprit de compétition. C'est parce que si tout le monde veut faire ce qu'il veut faire, et bah, les métiers qui sont nécessaires, qui sont indispensables, mais que personne ne veut faire,
il n'y aura plus personne.
Plus personne, du coup,
bah, mais tu vois, je pense pour retourner la chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire les métiers nécessaires et indispensables? Parce que ce sont des métiers qui sont pénibles pour le corps et que pour la pénibilité du métier, ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Mmh. Et on en revient à tout ce que j'expliquais avant sur la voie professionnelle. Et puis, il y a aussi une différence culturelle qui est due au contexte économique. Fut un temps, c'était assez logique de se dire qu'à la fin de sa vie, ce serait possible de devenir propriétaire. Mmh. Aujourd'hui, quand on est jeune, bon courage pour devenir propriétaire. Parce que les prix du logement ont totalement explosé. La question du chômage des jeunes, la question, avant on parlait des 30 glorieuses tellement l'économie allait bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi j'aurais toujours un problème avec la question de la compétition dans l'éducation. Je ne trouve pas normal que quand vous avez entre 15 et 18 ans, vous faites les choix qui vont acter tout le reste de votre vie. Parce qu'en fait quand on a 15-18 ans, on a le droit à l'erreur. Quand on a 15-18 ans, on a autre chose à penser. Et surtout en fait, on a le droit de changer de vie. Et c'est pour ça que nous on parle de faire la rupture avec ça. Moi, je ne veux pas qu'un métier essentiel soit mal payé.
Et t'aurais quoi comme modification, comme changement pour que ces métiers qui soient pour les gens, les journées sont interminables et...
Les métiers fatigants, les métiers mal payés.
Il y a plusieurs choses. Par exemple, premièrement, augmenter les salaires. En fait, quand les essentiels aujourd'hui doivent être davantage rémunérés. Et puis, il y a aussi une question sur l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, on nous a mis la retraite à 64 ans. Quand vous avez, par exemple, été éboueur toute votre vie, vous ne pouvez pas. Le corps lâche. C'est pas possible. Et donc, du coup, ça passe sur la question de la pénibilité des métiers, donc sur les conditions de travail, sur la question du salaire et sur la question de l'âge de départ. Et tout ça, par exemple, ça permet de donner quelques éléments sur comment changer les choses. Et ensuite, comment éviter la sélection et la compétition? En fait, il faut juste ouvrir des places.
Donc, selon toi, ça serait de plus équilibrer les salaires pour qu'il y ait donc...
En fait, avant, il y avait déjà les régimes spéciaux qui équilibraient un peu ça. C'est-à-dire que quand tu faisais un métier qui était difficile, bah, tu pouvais partir plutôt à la retraite. Oui. Tu avais des avantages, en fait, notamment à la SNCF pour les cheminots. Et ça a été supprimé par Macron. Donc, en fait, ce qu'il t'explique aussi là, c'est qu'il y a de plus en plus de mise en concurrence et qu'en fait, on a de moins en moins de choses à gagner, entre guillemets, à faire des métiers qui sont pénibles. Alors, il fut un temps, on savait comment les vendre, entre guillemets, ou en tout cas, comment trouver des personnes avec des conditions qui étaient favorables.
Et puis, j'irais même un peu plus loin. Aujourd'hui, en France, on a 6 millions de personnes qui sont sans emploi et qui cherchent de l'emploi. Sauf qu'il y a la DARES, du coup, qui est ceux qui font les statistiques sur la question du travail. Eux, ils estiment qu'il y a entre 500 000 et 800 000 emplois qui sont disponibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a, en fait, pas assez de travail dans ce pays. Et pourtant, les politiques n'arrêtent pas de dire « Ah bah, les gens, ils ne veulent pas travailler, donc on va baisser l'assurance chômage. Ah bah, maintenant, on va forcer les gens à travailler, sinon ils n'auront pas d'aide. » Et en fait, on est vraiment dans un truc que moi, j'appelle l'exploitation. C'est-à-dire que tu as des métiers qui sont pénibles, qui sont difficiles, qui sont essentiels, mais qui sont mal payés. Et on t'oblige à aller dans ces métiers parce que sinon, tu finis tout simplement à la rue. Et ça a été organisé par un patronat qui aujourd'hui s'arroge bien de faire en sorte que le chômage soit si haut parce que ça lui permet de dire « Ah bah, tu veux pas faire le travail malgré le fait que je propose un bas salaire ? J'en ai 10 autres qui font la queue après toi. » Et tout ça, ça profite à des gens qui en même temps s'en mettent plein les poches. Ça peut paraître... C'est ça le problème quand on parle d'économie. C'est une personne, on peut se dire, une personne qui a 10 000 euros, elle est riche. Mais une personne qui a 10 000 euros par rapport à une personne qui a 100 000 euros, elle est moins riche. Une personne qui a 100 000 euros par rapport à une personne qui a 1 million d'euros, elle est moins riche. Maintenant, il faut imaginer ce que c'est 1 million d'euros. On imagine que c'est déjà très riche par rapport à une personne qui a 1 milliard d'euros. 1 million par rapport à 1 milliard, c'est déjà impossible à conceptualiser. Maintenant, il faut imaginer que ces gens, ils n'ont pas 1 milliard, ils ont 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Ce sont des gens qui ont des fortunes tellement colossales qu'on ne peut pas se représenter ce que ça pèse. Mais en plus d'avoir des fortunes aussi colossales, ils ont un grand nombre d'entreprises, ils ont des médias, ils ont des liens avec des politiques. Ces gens ont un pouvoir sur notre pays qui est tellement puissant qu'aujourd'hui, ça devient difficile pour le peuple de le contrecarrer. Et ces gens n'ont pas les mêmes intérêts que le peuple. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'il existe une lutte des classes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez deux camps. Vous avez une oligarchie, c'est-à-dire des gens très riches qui possèdent tout ce qui est essentiel à la survie du peuple. Et vous avez le peuple, c'est-à-dire des gens qui se lèvent le matin pour un SMIC qui leur permet à peine de payer le loyer qui est possédé par les ultra-riches, l'eau qui est possédée par les ultra-riches, l'électricité qui est possédée par les ultra-riches. Et j'ai choisi mon camp, je suis du camp du peuple, et mon objectif, c'est que le peuple se fédère et aille reprendre aux ultra-riches ce qu'ils ont volé au peuple. Et ça, alors pour certaines personnes, on peut dire non, c'est de la philosophie politique, il faut le prendre pour ce que c'est. Et à partir du moment où on analyse la société de cette manière-là, on est capable de comprendre la plupart des choix qui sont faits par la France insoumise.
D'accord.
Très bien. Je vais te parler un peu de ce qui se passe en ce moment, l'actualité. On voit qu'il y a une véritable chasse aux migrants aux États-Unis de la part de Donald Trump. On a quasiment la même chose en France avec les lois Darmanin, Retailleau qui fait la même chose, etc. On le voit notamment avec la répression des jeunes du parc de Belleville qui ont dû quitter la gaieté lyrique, qui sont dans des conditions qui sont vraiment catastrophiques, malgré une mairie de gauche à Paris. Ta famille politique, comment vous comptez régler cette problématique et comment vous faites face au climat raciste, entre guillemets, qu'on rencontre?
Ce qui est le plus fou avec quand on parle des migrants, c'est qu'en fait, on ne parle plus comme si c'était des êtres humains. Il y a une déshumanisation des immigrés, des migrants, mais qui touche à l'inhumanité, à l'horreur. Faut voir de quoi on parle. Là, Monsieur Retailleau qui annonce qu'il va mettre des policiers à la sortie des gares pour aller arrêter les gens et les expulser, ça veut dire que tu as des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui rentrent le soir. Et puis, ils ne reverront plus jamais leur vie, leur cercle social. Et c'est complètement idiot de parler de sans-papiers. Ça n'a aucun sens. Premièrement, parce que l'État fabrique les sans-papiers. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir de rendez-vous en préfecture tellement c'est surchargé parce qu'ils ont baissé les moyens. Et donc, du coup, vous avez des gens qui sont en règle. Mais ces gens-là, alors qu'ils ont le droit, on va quand même les expulser. Et puis ensuite, il y a un deuxième sujet. C'est que moi, j'ai rencontré des gens. Ils ont 40 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur le territoire français, mais ils sont considérés comme sans papier. Moi, j'ai 24 ans. Ça veut dire que eux, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le territoire français. Moi, ça fait 24 ans que je suis sur le territoire français. Qui est le plus français entre lui et moi? Et quand on tourne le truc comme ça, on se rend compte que ça n'a juste pas de sens, en fait. Et qu'il faut regarder les gens, pas sur la base d'un bout de papier, sur la base de leur humanité. Et puis surtout, quand on parle d'immigration, déjà, il faut parler des causes d'immigration. C'est-à-dire les pays occidentaux qui ont colonisé, qui ont pillé et qui continuent aujourd'hui de maintenir des gouvernements corrompus à travers nos entreprises françaises qui, elles aussi, sont corrompues et empêchent ces pays de se développer. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, risquent leur vie, en meurent même parfois dans des traversées, alors qu'ils sont l'espoir de leur famille. Donc moi, quand on parle d'immigration, j'aimerais qu'on en parle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des êtres humains qui demandent seulement à être traités comme des êtres humains. Et il faut aussi parler du racisme autour de tout ça, parce que franchement, on ne parle pas des immigrés de la même manière selon qu'ils soient ukrainiens ou selon qu'ils soient congolais. Et pour le coup, c'est impressionnant de voir à quel point la question de l'immigration, on ne la regarde pas de la même manière selon qu'il s'agisse d'un pays de l'Ouest ou selon qu'il s'agisse d'un pays du Sud. Et donc, moi, je ne reconnais pas mon pays et j'aspire à ce qu'on fasse les choses autrement. Par exemple, à régulariser tous les travailleurs sans papier.
Très bien. Louis, on arrive à la fin de l'émission. J'ai une dernière question qui va un peu rebondir sur ce que tu m'as dit. Tu parlais d'impérialisme, notamment l'impérialisme français. Il se manifeste aussi par le franc CFA, qui est notamment construit à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que vous avez il y a un programme à la France Insoumise qui parle du coup de mettre fin à l'impérialisme français?
Oui. En fait, c'est ça le problème. C'est que ça pourrait être tentant et d'arriver dire c'est la fin du franc CFA. C'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'il faut aller voir les pays qui sont concernés et il faut leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Et en fait, nous, le rapport que la France doit avoir avec les pays que la France a anciennement colonisés, ça doit être un rapport de respect. On ne doit pas arriver et dire « pour votre bien, on va faire ça ». On vient les voir, on se parle d'égal à égal et on dit « qu'est-ce que vous attendez de nous ?». Et c'est comme ça qu'on construit des partenariats. Et donc nous, on aspire à construire des partenariats respectueux qui ne sont pas dans le paternalisme. C'est des relations diplomatiques d'égal à égal qu'on cherche à nouer. Donc voilà un peu comment on fera les choses.
Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci Léo pour l'émission.
Ouais, merci, c'était vraiment
super
cool.
Ça t'a plu? Première expérience radio aujourd'hui.
Plus de questions.
Très bien, mais c'est comme ça que se nourrit le débat. Et j'espère que tu pourras faire deux émissions avec d'autres invités, si jamais le cœur t'en dit. Merci à la technique, merci à Jason.
Merci
et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
KFAN.